10 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, la mémoire est vive, reste vive et les questions sur la liberté d'expression sont toujours actuelles.
Pour rendre hommage aux victimes des attentats de 2015, la région Occitanie a organisé toute la semaine dernière une série d'événements, des temps d'hommage, d'échanges et d'expressions artistiques auxquels un millier de personnes ont pris part. C'est au tour maintenant du département de Haute-Garonne d'organiser jusqu'au 31 janvier un cycle d'expositions et de débats. Libérons les crayons, 10 ans sans eux. Cette initiative vient prolonger la commémoration des 10 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, au cours duquel 12 personnes ont perdu la vie, dont le Toulousain Bernard Maris. Où en sommes-nous aujourd'hui de la liberté d'expression? Nous posons la question à Robert Redeker, agrégé de philosophie et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en 2023, L'abolition de l'âme. Bonjour Robert Redeker.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Merci
Et bonne année.
d'avoir accepté notre invitation et bonne année aussi à vous. J'aimerais, pour débuter notre entretien, Robert Redeker, vous faire réagir à la dernière enquête IFOP Fondation Jean Jaurès Charlie Hebdo. Elle indique que 62% des Français se déclarent favorables au droit au blasphème contre 50% en 2020. Qu'est-ce que vous inspire cette évolution?
Oui, il me semble avoir vu qu'également 55% des musulmans ne sont pas absolument opposés au droit au blasphème. Et cela remplit quand même d'un certain optimisme et rectifie l'image obscurantiste que l'on pourrait avoir de ces mouvements religieux. Je crois que les religions, de toute façon, ne seront pas du bien lorsqu'elles s'en prennent violemment à des caricaturistes, des journalistes, etc. C'est un réflexe identitaire d'hostilité qui les enferme sur elles-mêmes. Par là, elles gagnent en cohérence interne, mais elles perdent en crédibilité externe. Or, voilà, 55% des musulmans, selon ce sondage, ne sont pas absolument opposés aux caricatures blasphématoires.
Oui, ils estiment que la
Cela
liberté de
confirme.
caricature doit être
Voilà.
limitée quand même, hein, 55%.
Oui, elle doit être limite. Ça veut dire que 45% pensent le contraire.
Oui, c'est
Et
ça.
c'est cela qui me rend optimiste.
Oui.
Et cela signifie que l'adaptation de l'islam à la France est en route. Et justement, le problème de la violence se pose là. L'islamisme, qui est l'islam politique, identitaire, veut rendre cette adaptation impossible. Voilà. Et que le combat pour la liberté d'expression, c'est un combat aussi à l'intérieur de l'islam, de toutes les religions, de toute manière, je pense. Donc vous avez deux mouvements, une adaptation progressive de l'islam à l'état d'esprit qui est le nôtre, et une montée de l'islamisme et finalement des frictions qui seront de plus en plus fortes entre les deux. Et alors
Mais
pour en, re, oui,
qu'en
pour en
est-il
revenir.
des autres religions? Parce que justement, ce même sondage indique que 66% des croyants soutiennent la liberté d'expression contre 82% des athées. Donc là, on a quand même aussi encore un décalage. Et les chrétiens que
Oui.
nous sommes pouvons être parfois choqués ou blessés par une caricature qui représente la
Mais
foi
je
chrétienne.
suis votre serviteur également est blessé. Et je crois que le droit au blasphème est un principe. Et si punition pour blasphème il doit y avoir, elle se situera dans l'ordre du spirituel, non dans l'ordre civil et politique. Le blasphème, c'est un rapport entre le croyant et Dieu. Ça se joue dans le face-à-face entre le croyant et Dieu, dans la perspective du salut du croyant. Il n'y a de blasphème, au fond, que pour le croyant, pas pour la société. Et il me semble que il y a une évolution vers la compréhension du blasphème en ce sens-là, ce qui ouvre les portes, au fond, de la liberté d'expression. Si je suis choqué, puisqu'on parle d'être choqué, dans ma foi par un propos, un dessin, c'est sur moi que je dois m'interroger, pas sur l'auteur du dessin. Ça veut dire, ma foi serait-elle si faible qu'elle ne supporterait pas ce dessin, qu'elle ne supporterait pas ce propos, qu'elle serait incapable de le surmonter autrement que par le châtiment de l'auteur du dessin? Or, c'est moi que ça concerne, pas l'auteur du dessin. Or, que la haine contre le blasphémateur provient du manque de confiance dans ma propre foi, qui a peur de ne pas résister au blasphème, qui a peur de tomber en ruine devant le blasphème. Je crois finalement que cette haine du blasphémateur, quand je ne m'interroge pas sur moi-même, c'est la sublimation de la peur que j'ai de que ma foi tombe en ruine devant ces desseins. Je ne sais pas si j'ai répondu
Oui.
à votre
Je vous remercie,
question, mais.
Robert Edecker. Je voulais vous faire réagir aussi à cette déclaration que Georges Clemenceau a faite lors d'un débat sur le blasphème. Alors, on remonte bien loin. C'était en 1881, au Palais Bourbon. Il disait: on ne peut défendre honorablement que ce qu'on peut attaquer librement. 10 ans après ces attentats, cet attentat de Charlie Hebdo, comment cette citation de Clemenceau résonne pour vous?
Le mot honorablement, qu'on
Oui.
n'emploie plus beaucoup, est très important dans cette phrase que vous venez de citer, je trouve. Nos sociétés, les sociétés occidentales sont depuis longtemps, depuis des siècles et des siècles, des sociétés pluralistes, ouvertes et pluralistes. Et contrairement à ce qu'on croit, c'était déjà le cas dans la chrétienté médiévale. Voilà. C'était déjà des sociétés pluralistes. Et dans l'histoire de l'humanité, ce pluralisme est, on va employer un mot religieux en le déplaçant un peu, ce pluralisme, c'est un miracle politique. Ça n'a existé qu'une seule fois dans les civilisations, la nôtre, si vous voulez. Donc, les sociétés pluralistes sont des sociétés qui ont inventer la légitimité du pluralisme. Et le christianisme a une grande responsabilité, au sens fort de responsabilité, dans cette invention-là. Voilà. Et le propos de Clémenceau, vous venez de dire, où honorable est très important, c'est un propos, au fond, qui définit la liberté. Et c'est parce que c'était le christianisme qui était dominant. Il n'y avait pas d'islam à l'époque de Clémenceau. Et c'est parce que le christianisme peut être en toute légitimité attaquer ce que n'ont pas manqué de faire Nietzsche, qui voyait en christianisme son ennemi principal, Marx, Heidegger, voire Freud, c'est parce qu'il peut être attaqué en toute légitimité que je peux le défendre sans que ce jeu d'attaque-défense ne se transforme en guerre civile. Hein, c'est de cette façon-là que je comprends la citation
De
de
Clémenceau, de Georges
Clémenceau.
Clémenceau. Oui, c'est
Ouais.
vrai, parce que
Et
en s'y opposant, finalement, on pave le chemin de l'autoritarisme.
oui. C'est pourquoi je crois que limiter la liberté d'expression, c'est lancer un engrenage, et l'histoire l'a prouvé. C'est lancer un engrenage dont on ne sait où il s'arrêtera.
Et l'histoire. Pardon.
De fait, on limitera. Toujours de plus en plus, si l'on met le doigt dans cet engrenage. Donc, je crois qu'il vaut mieux prendre le risque de trop de liberté d'expression que pas assez. La limite, bien sûr, de la liberté d'expression, la grande limite, c'est la diffamation et
Bien sûr.
c'est l'appel explicite à des violences et l'appel explicite à des. À mettre de côté toute une population, ainsi de suite. C'est cela, elle est là, la limite.
Oui, bien
Mais
sûr.
dans les dessins de Charlie Hebdo, il n'y avait pas du tout de choses comme ça. Il n'y avait pas du tout d'appel à la violence, ni d'appel à des formes d'apartheid. Il y avait beaucoup d'ironie. Enfin, je vais vous le dire franchement, je n'ai jamais été un grand lecteur de Charlie Hebdo. Et ce n'est pas du tout. J'ai dû lire 5-6 fois dans ma vie Charlie Hebdo, et ses dessins, bon, je trouve ça. Voilà. Mais je ne veux pas les critiquer parce que ce serait pas. Ça manquerait de délicatesse et de dignité Vous voyez ce que je veux dire
Oui, bien sûr. Alors, il y a un autre événement quand même dans l'actualité, c'est la détention de l'écrivain Oualem Sansal. Hein. Le 16 novembre dernier, il a été arrêté à l'aéroport d'Alger. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation, notamment atteinte à l'intégrité et à l'unité nationale et aux institutions de l'État. Il risque la peine de réclusion à perpétuité. Qu'est-ce que cette arrestation vous suggère, Robert Redeker?
Je connais Boualem Sansal,
Oui, vous le connaissez.
voilà. Deux choses, je vais dire. C'est un drame qui fait mal. Donc aujourd'hui, ce qui fait mal aussi, c'est que c'est un homme seul. Il n'y a pas de mouvement de masse en France pour le soutenir.
Oui, il y a
Voilà.
quelques
Or,
soutiens, mais sporadiques, individuels.
c'est un écrivain français. Et je me souviens, je suis assez âgé pour me souvenir, lorsque il y a eu le coup d'État du sanguinaire Pinochet au Chili, bon, Pablo Neruda, Victor Jara ont été persécutés, torturés, sont morts. Et quand même, dans tout l'Occident, dans toute la France, il y avait tout le temps, partout, des meetings, des mouvements pour les soutenir. Je me souviens que les vedettes de la musique, comme Jean Ferrat, le bruit des bottes, soutenaient Neruda et Jara. Bernard Lavilliers, dans sa chanson La Samba. Voilà. Et même le talentueux groupe de rock, les Clash. Bon. Et
Et que signifie ce
c'était,
silence
là,
aujourd'hui?
il n'y a rien.
Oui.
C'est le silence. Alors, je crois que c'est le silence parce que le gouvernement algérien est tenu pour tiers-mondiste, hein, c'est cela. Je crois que c'est une des raisons, alors que le gouvernement chilien, ben, c'était plus facile. Pinochet, c'était la marionnette des Américains, des États-Unis, ben, si vous voulez. Donc, on n'ose pas. La gauche en particulier n'ose pas attaquer le gouvernement algérien, soutenir Boualem Sansal. Une autre des raisons, c'est que les idées qui paraissent dans les livres de Boualem Sansal ne vont pas du tout dans le sens de l'opinion de gauche dominante dans les milieux culturels. Intellectuel, si vous voulez. D'abord, par rapport à l'islam, et il est possible, on ne va pas entrer dans des questions théologiques, on n'a pas le temps, et pour Oualem Sansal, entre l'islam et l'islamisme, au contraire de ce que j'ai dit au début, pour lui, il n'y a pas de différence de nature, il n'y a qu'une différence de degré. L'islam est patient, l'islamisme est pressé, mais ils ont le même but. Alors, il est probable qu'il se trompe. Mais ça passe très mal, aussi bien en Algérie qu'en France. Et d'autre part, il a quand même dans ses livres, une certaine nostalgie de la colonisation. Il dit que la colonisation française, c'était pas si mal que ça. Je pourrais vous trouver la citation, mais là, on n'a pas le temps.
Ce
Et
qui
puis,
irrite évidemment
voilà.
beaucoup d'intellectuels
Et cela irrite
français.
à la fois en Algérie, on peut le comprendre, qui vit sur une rente mémorielle, mais cela irrite les intellectuels et la gauche en France, qui, pour la plupart, ont soutenu le FLN et ont soutenu les Algériens, enfin le FLN, au moment de la guerre d'Algérie. Donc, je crois que là, nous avons des raisons pour lesquelles Boualem Sansal est un homme seul. Et c'est parce que c'est un homme seul. Comme l'a été Solzhenitsyn ou comme l'a
Oui.
été le philosophe tchèque Jan Patočka, que nous devons le soutenir.
Voilà, c'est effectivement une bonne invitation. Merci beaucoup, Robert Redeker, de nous avoir éclairé ce matin sur la liberté d'expression et je vous souhaite une bonne journée.
Merci, madame.